Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, André Hichet. Voilà, je vous remercie d'être venu participer à cette petite séance de présentation d'un ouvrage que j'ai écrit au début de l'année, enfin qui a été édité au début de l'année chez Economica, qui s'appelle « Quelle défense pour la France ?». Bon, la première question, c'est peut-être de se demander d'ailleurs quel est l'intérêt finalement aujourd'hui de traiter de ce genre de thème, de ce genre d'ouvrage. Parce qu'il y a un constat qui s'impose d'évidence à tous, c'est que nous sommes en train de participer, enfin de suivre une élection présidentielle. Nous allons élire dans quelques semaines quelqu'un qui deviendra ou qui sera reconduit comme chef des armées. Et finalement, ce qui est absolument frappant de constater, c'est que les questions de défense ne sont absolument pas abordées de manière en tout cas sérieuse et pertinente. Voilà. Et pourtant, il me semble que pour quiconque se penche sur notre passé historique, sur l'histoire du pays, sur l'histoire des pays en général d'ailleurs, il est pratiquement impossible d'imaginer de construire la cohésion nationale, de construire une véritable cohésion sociale sans intégrer cette dimension-là. On a aujourd'hui beaucoup tendance à penser la cohésion sociale à partir de l'État-providence, à partir de mécanismes de solidarité interne. Et c'est sans doute une dimension qui est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Et il suffit de voir aujourd'hui ce que sont les grandes puissances, les grandes nations, ce que sont peut-être encore plus significatifs les pays émergents, les nations émergentes, pour voir que, en réalité, on construit une nation, bien sûr, sur la base de liens de solidarité interne, mais également à travers la posture que l'on adopte vis-à-vis de l'extérieur. Il est clair que la politique de défense, la posture de défense, constitue un élément important, et je dirais même essentiel, de cette posture vis-à-vis de l'extérieur. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs pour illustrer ce fait-là en faisant référence aux origines de la conscription moderne que nous avons connue en gros pendant un siècle entre la fin du 19e, la loi Niel qui a restauré la conscription en France et puis sa suspension à partir de la fin du 20e siècle. Enfin, on est l'annonce par le président de la République en 1996 et la suspension au cours des années qui ont suivi. Eh bien, les initiateurs de la conscription et notamment le rapporteur du projet de loi qui a instauré la conscription, qui était député de Marennes, s'appelait Chasseloup Loba. Chasseloup Loba, député de Marennes, avait présenté le projet de conscription à une chambre qui était alors conservatrice, en disant « la conscription sera, pour la France, une école de discipline civique et de discipline civile, en quelque sorte ». C'était l'idée que, finalement, instaurer un système qui, certes, était tourné à cette époque-là, vers la défense extérieure du pays, puisque la menace prussienne, évidemment, était non seulement très réelle, puisque la guerre venait d'être perdue, mais la menace subsistait, hein, puisque Bismarck n'avait pas renoncé à briser définitivement les reins de la France. Eh bien, cette réponse à travers la conscription générale instaurée finalement pour la première fois dans ce pays était bien sûr conçue comme une démarche de sécurité extérieure, mais également comme une démarche de renforcement de la cohésion nationale. Voilà, je referme cette parenthèse. Alors, finalement, pour aborder ce sujet, je crois qu'il faut le traiter de deux manières et au fond, ces deux approches qui sont indispensables expliquent probablement une certaine difficulté à le traiter. Il faut le traiter à la fois dans une perspective historique pour essayer de tirer toute la substantifique moelle, finalement, de l'expérience des siècles passés. Mais en même temps, il faut évidemment connaître suffisamment, apprécier suffisamment et pondérer tous les déterminants du monde moderne pour voir de quelle manière ces enseignements historiques peuvent être utilisés valablement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire assez modestement, je dois dire, hein, dans cet ouvrage qui est à la fois bref, mais je crois assez dense. Alors premièrement, finalement, pour aborder le sujet, quels sont pour les Français, pour l'esprit français, pour l'identité française, pourrions-nous dire, les ressorts, les déterminants, justement, de l'esprit de défense. Très différent de ce que l'on peut trouver, par exemple, chez nos voisins britanniques. L'esprit de défense chez les Britanniques, c'est la défense des intérêts ultramarins. C'est la préservation du commerce, et un de leurs très grands premiers ministres, William Pitt, a résumé cette position par une phrase qui dit tout. Dès lors qu'il s'agit de commerce, nous sommes sur notre dernière ligne de défense, il faut vaincre ou mourir. Voilà la vision finalement britannique telle que assez finement résumée par ce grand premier ministre. Quand on regarde, en effet, quels peuvent être les déterminants pour toutes les nations, au fond, il y a trois grandes familles. Il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire la défense des intérêts, la protection des intérêts, éventuellement des intérêts ultramarins, des intérêts commerciaux. Le deuxième grand déterminant, qu'on a pu voir pendant certaines périodes, récemment, dans la culture américaine, et qui parfois a emballé l'opinion française, mais de manière très passagère, c'est la promotion de valeurs universelles. La promotion de valeurs universelles au moment de la Révolution et sous le Consulat, c'est effectivement un mouvement qui a porté la nation, mais qui l'a porté pendant quelques années, brièvement. Et après la Seconde Guerre mondiale, nos amis et alliés américains ont connu des bouffées finalement de messianisme qui les a poussés effectivement à agir dans cette perspective-là, d'instaurer la démocratie par exemple comme valeur universelle. À mon sens, et j'essayais d'étayer ces propos à travers des exemples historiques concrets, les Français n'adhèrent pas durablement et profondément à ces mouvements-là non plus. Ils aiment bien en parler, de temps en temps ils rêvent sur ces thèmes-là, devoir d'ingérence, les valeurs de la France, pays des droits de l'homme. Mais en réalité, tout montre qu'ils n'adhèrent pas durablement. Je reviendrai dans quelques instants sur quelques exemples historiques qui illustrent ça. Et en réalité, le vrai ressort de l'esprit de défense à la française, c'est la défense du territoire national. Au fond, la nation française ne s'est jamais véritablement mobilisée, mais elle s'est mobilisée dans des proportions inimaginables, inconcevable, dramatique. Ça a été le précaré, la défense des frontières, la défense du territoire national. Et évidemment, l'épisode le plus dramatique et le plus inconcevable à certains égards, aujourd'hui en tout cas, qui a pu illustrer ce propos-là, eh bien, c'est tout simplement le premier conflit mondial. Je ne rappelle pas les chiffres qui le caractérisent, 1,4 million de morts pratiquement, la nation sous les armes, au total 9 millions d'hommes mobilisés, hein, pour une nation de 40 millions d'habitants. Bon. Fait encore plus significatif, une réelle adhésion populaire. Je vous rappelle qu'au moment du déclenchement de la Grande Guerre, tous les courants politiques confondus, Léon Jouot, secrétaire de la CGT, déclarant « Acculés au combat, nous allons nous lever pour défendre les valeurs de la France. » Et nous nous battrons dans la défense du territoire et des valeurs universelles héritées par la République, portées par la République. Donc, une réelle mobilisation qui s'est traduite d'ailleurs par des chiffres surprenants, puisque dans les premiers jours de guerre, l'état-major attendait 15% de désertion. 15% de désertion. Et la réalité a été de 1,5% de désertion. Et on a vu, au cours des premières semaines de la Première Guerre mondiale, 3000 déserteurs du temps de paix, des types qui refusaient de faire leur service national, rejoindre les armées pour s'engager, pour rejoindre les armées, pour défendre finalement la République et le territoire national. Donc, véritable et seul ressort de mobilisation, me semble-t-il, de la nation française dans l'histoire, c'est ce phénomène-là. La défense du territoire, cette réelle motivation. Je reviens un peu un instant pour illustrer justement par rapport à ça ce qu'ont été les limites de l'engagement des Français, du peuple français, de la nation et de ses dirigeants évidemment, dans la défense, dans la protection des intérêts ultramarins ou dans la défense des valeurs universelles, par opposition. Bah, finalement, le caractère fragile et révocable de la défense de ses intérêts ultramarins, à mon sens, il trouve son illustration parfaite à travers le traité de Paris, 1763. Louis XV abandonne au traité de Paris ce qui a été 2 siècles de construction du premier empire colonial français, qui à l'époque était probablement le premier empire colonial du monde, à bien des égards. Bon. La défense des valeurs universelles, eh bien, ça a été assez largement la manière dont le second empire colonial a été abandonné finalement assez rapidement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, alors même que, là aussi, la France avait construit un outil de rayonnement incontestable. Bon. Donc, ma première thèse, c'est qu'effectivement, le ressort de l'esprit de défense à la française, il repose largement sur la défense et sur la protection du territoire national. Il est étroitement ancré à cette notion de territoire national. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à partir du moment où finalement le seul ressort de mobilisation du peuple en armes, c'est précisément la défense du territoire national, dès lors que toute menace directe et immédiate disparaît, que le système de conscription n'est pratiquement plus en état de subsister. On ne peut pas justifier le maintien d'un système de conscription pour les autres catégories d'enjeux auxquelles nous pouvons avoir à faire face. Protection d'intérêts ultramarins en particulier. Je referme également cette parenthèse. Le problème auquel nous nous trouvons donc aujourd'hui confrontés, d'une certaine manière, c'est que précisément, d'abord, le cadre stratégique a profondément changé. Il avait changé finalement, dès le lendemain de la guerre, parce qu'à travers la construction de l'OTAN, à travers, bien sûr, la menace qui venait de l'Est, nous avions déjà constitué ce qui a toujours été un souci pratiquement obsédant dans l'histoire du pays, un glacis protecteur. Ce glacis protecteur, c'était évidemment la République fédérale allemande. Bon. Et d'ailleurs, Alfred Grosser, qui a largement commenté cette époque-là et qui commentait donc la politique gaullienne de sortie du commandement intégré, c'était à une autre époque de l'OTAN, Alfred Grosser rappelait que toute l'astuce du général de Gaulle dans la sortie du commandement intégré de l'OTAN, eh bien c'est précisément que la République fédérale se trouvait entre la France et les Russes. Et qu'on pouvait, sans sortir de l'Alliance Atlantique, sortir sans gros inconvénients du commandement intégré, puisque de toute façon, l'OTAN et les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest étaient entre nous et la menace. Bon. Et que de surcroît, puisque nous, nous en sortions, mais que les Allemands ne pouvaient pas en sortir, c'était un moyen de nous positionner diplomatiquement et stratégiquement dans une posture avantageuse vis-à-vis des voisins qui, eux, étaient condamnés à être dépendants du grand allié américain. Donc, basculement du cadre stratégique, unification du cadre stratégique européen, qui fait qu'en réalité, bien sûr, aux marges de l'Europe, dans les Balkans, ici ou là, il peut y avoir quelques zones de menace, mais enfin, ce sont des zones de menace résiduelles et qui ne peuvent pas être constitutives d'une réelle motivation pour l'esprit de défense à la française. Deuxième basculement, on pourrait parler également de la liste des grands enjeux. Les grands enjeux, ils se situent bien sûr bien ailleurs que sur le territoire national. L'accès à l'eau, l'accès aux minerais rares, l'accès aux ressources énergétiques, peut-être d'abord et avant tout, font qu'en réalité, on ne peut pas penser notre stratégie en fonction d'enjeux liés à la territorialité. Troisième grande catégorie de basculement, de rupture, elles sont d'ordre technologique. Et la principale d'entre elles, me semble-t-il, elle a été encore illustrée assez récemment par les événements en Libye, par les opérations en Libye, c'est l'émergence de ce qu'on peut qualifier d'espace informationnel global. L'espace informationnel global, c'est finalement l'ensemble du dispositif qui a été mis en place par les États-Unis et qui fait que lorsqu'on veut effectuer une opération militaire, que ce soit une action de force spéciale, que ce soit une frappe à distance effectuée par des drones ou par des avions de combat. En réalité, comment les choses se passent ? Bien, elles se passent à travers le repérage d'un objectif, qui peut être d'ailleurs un objectif mobile, par satellite, la transmission à des centres de commandement et de traitement de l'information situés sous les Rocheuses ou à des dizaines de milliers de kilomètres de là, et la retransmission de données permettant aux gens qui sont sur le terrain d'agir, en l'espace de quelques secondes ou de quelques dizaines de secondes, à partir de ces espaces d'information, avec des enjeux opérationnels très directs, par exemple un tir de missile, qui peut être détecté de cette manière-là. Avec des données qui viennent de multiples sources. Je cite des satellites, mais vous savez qu'il peut y avoir des avions radars en l'air, il peut y avoir des sources multiples, notamment par exemple dans la détection des sous-marins en plongée. Et tout ça est intégré à travers un système de traitement de l'information qui est aujourd'hui un élément d'efficacité déterminant. Et donc, globalement, on peut dire que le monde se répartit en deux catégories. Ceux qui peuvent avoir accès, pour les besoins de la cause, à cet espace informationnel global, et ceux qui n'ont pas accès. Ceux qui n'ont pas accès, ce sont les artisans. C'est une défense artisanale. Et en réalité, les seules capacités de défense qui pèsent encore dans cet univers-là, ce sont les capacités de défense mises en œuvre par des puissances qui ont justement la capacité d'obtenir, soit de manière permanente, soit de manière ponctuelle, l'accès à ce système d'information généralisé. Voilà. Vous voyez les ruptures stratégiques, les ruptures technologiques et puis les ruptures en termes d'enjeux. On pourrait développer quelques cultures culturelles avec l'Internet et autres pour montrer que finalement, ce qui constitue encore profondément notre manière de voir les choses et de les ressentir, c'est-à-dire le précaré, les frontières, le territoire national, eh bien, on constate ou on ne constate pas, mais c'est en creux, que tout ça a perdu beaucoup de sa pertinence. Et je crois qu'on trouve là probablement une des raisons profondes pour lesquelles les enjeux de défense ne sont plus aujourd'hui débattus sur la place publique comme probablement ils devraient l'être. Alors, puisque c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, de quelle manière aborder le sujet, finalement, dans ce nouveau contexte? Je pense que d'abord, nous devons identifier ce que sont les risques potentiels auxquels nous avons à faire face. Il y a des risques de crise dans le monde. À mon sens, la crise la plus grave et la plus dangereuse se situe probablement dans la zone indo-pakistanaise, parce que nous sommes là en présence de deux nations qui ont une capacité militaire, dont les relations sont historiquement tendues, avec le fait que le Pakistan lui-même est un État où le pouvoir étatique est en train de se délabrer en grande vitesse, et avec un jeu d'alliance qui s'est à la fois clarifié mais complexifié à certains égards, puisque l'Inde, depuis une dizaine d'années, a procédé à un basculement stratégique complet en devenant allié stratégique des États-Unis. Alors que je rappelle que pendant trois décennies, l'Inde a été un partenaire de l'Union soviétique, mais depuis que l'Union soviétique a perdu son existence, l'Inde s'est considérablement rapprochée des États-Unis. Par voie de conséquence, le Pakistan s'est rapproché de la Chine. Et on voit bien qu'il y a là, potentiellement, tout l'engrenage qui, par exemple, a conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est un jeu d'alliance entre, disons, le bloc slave, la Serbie, la Russie et un bloc germain, austro-germain, qui a mis le feu aux poudres. Bon, donc, on voit bien que dans la zone indo-pakistanaise, complétée par les enjeux spécifiques de l'océan Indien, on a une zone de danger potentiel. Bon, la France n'est pas en première ligne là-dessus. Nous avons évidemment une zone de conflagration potentielle en mer de Chine, mer du Japon, ce qui rend probablement les choses là un peu plus maîtrisables qu'ailleurs, c'est la proximité immédiate de la Chine, qui probablement est un élément plutôt de stabilisation et de pacification. Il n'en demeure pas moins que la situation de Taïwan, d'une part, et surtout la situation coréenne, constitue potentiellement, là aussi, une zone de détonation. La France et l'Europe, d'une manière générale, ne sont pas impliquées au premier rang dans ces deux zones-là. Encore que, souvenons-nous que, pour ce qui concerne la zone indo-pakistanaise, l'enjeu élargi, c'est l'océan Indien. Je rappelle que 90% des ressources énergétiques de l'Asie circulent, passent par l'océan Indien, et que donc, avec l'île de la Réunion, qui se situe finalement en base arrière de la grande base américaine de Diego Garcia, nous sommes là potentiellement, malgré tout, pour ce qui concerne un territoire français, dans une zone potentiellement en risque. Qu'est-ce qui reste ? Bien, il reste l'Iran, évidemment, et puis il reste le Moyen-Orient. Alors, de ce point de vue, le jour même où était publié ce bouquin, modeste, c'était une coïncidence, naturellement, Barack Obama a publié les nouvelles instructions et les nouvelles priorités stratégiques des États-Unis, confirmées dans la foulée par un document publié par le secrétaire américain à la Défense, Léon Panetta, et par un document explicatif du Pentagone. Pour résumer, ce document très intéressant, court, mais comme toujours, dans le cas de documents américains, très ciblé, très concret et très lisible. Qu'est-il dit là-dedans ? Il est dit, premièrement, les États-Unis, et c'est un tournant historique, depuis la Seconde Guerre mondiale, renoncent à la capacité de conduire deux guerres majeures de front. Autrement dit, les États-Unis conserveront la capacité de conduire et de gagner une guerre majeure et de dissuader ou de stabiliser un deuxième conflit, mais renoncent finalement à la guerre sur deux fronts. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois que ça arrive. Puisque précisément, pendant la Seconde Guerre mondiale, le choix stratégique des États-Unis a été de conduire et de gagner une guerre majeure sur deux fronts. Deuxièmement, la priorité est désormais à l'Asie. Voilà. Quoi qu'il arrive, la priorité sera sur les théâtres asiatiques. Troisièmement, je reviendrai sur ce point, les États-Unis renoncent à l'envoi durable de forces expéditionnaires considérables sur des théâtres d'opérations extérieures. Autrement dit, c'est la fin de l'Irak, c'est la fin de l'Afghanistan. Quelles conséquences concrètes pour nous ? Ça veut dire que si on imagine un conflit se déclenchant précisément en Asie, mer du Japon ou mer de Chine, encore une fois, pas hautement probable, mais enfin, prenons en considération un facteur important, c'est que dans le renforcement de la puissance militaire chinoise, la composante qui indubitablement pèse le plus aujourd'hui, c'est la composante navale, et en particulier la composante sous-marine. Autrement dit, le déclenchement d'opérations entre la marine chinoise et les 7e et 5e flottes américaines, en particulier autour, bien sûr, de Taïwan et de la mer de Chine ou de la mer du Japon avec la Corée, ou des flux de communication pétrolière dans l'océan Indien, à travers ce que je disais, n'est quand même pas totalement exclu. Mais il est clair que dans ce genre d'hypothèse, le théâtre proche et surtout moyen-oriental ne sera plus la priorité numéro un des États-Unis. La priorité numéro un des États-Unis sera de stabiliser la situation en Asie. Et ce qui veut dire que, corrélativement, il faudra bien que des moyens venus d'ailleurs complètent les moyens américains pour éventuellement assurer la sécurité de l'Arabie saoudite, la sécurité des Émirats arabes unis, etc., gros producteurs de pétrole. Et on voit bien, par ce biais-là, quel est le véritable enjeu auquel se trouvent confrontés aujourd'hui à la fois la France et l'Europe. C'est finalement, dans certains scénarios amenant un engagement majeur américain sur des théâtres d'opérations asiatiques, la faculté d'avoir capacité d'intervenir complémentairement sur des théâtres qui, pour nous, représentent des enjeux majeurs. Il reste en dehors de ça, évidemment, on l'a vu récemment, les théâtres périphériques du sud de la Méditerranée. Comment faire face à cette situation, alors qu'on sait tous que la situation des finances publiques fait que la tendance naturelle, eh bien, c'est évidemment de faire des économies et des sacrifices. Et par expérience, la tendance naturelle de n'importe quel ministre de la Défense et de toutes les autorités, lorsqu'il faut faire ce genre d'économies et de sacrifices, c'est de procéder homothétiquement. C'est-à-dire qu'on tape à hauteur de 10 ou 15% dans tous les budgets militaires, dans toutes les composantes, sans faire de choix. Voilà. Je crois que c'est la pire des solutions, parce que c'est précisément une solution qui exclut la mise en œuvre de tout ce dont nous parlons depuis maintenant un petit moment, c'est-à-dire une réflexion stratégique, une pensée stratégique. Revenons donc sur, finalement, la manière dont nous pouvons aborder ce sujet. Je pense qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui arrivés dans une phase, et le document américain dont j'en parlais l'illustre bien, de basculement d'un certain nombre de concepts et de modes d'intervention. Pour parler de manière rapide et synthétique, je pense que nous avons construit depuis 15 ans ce qu'il est convenu d'appeler un modèle après la fin de la conscription, et j'ai expliqué pourquoi était venue la fin de la conscription. Nous avons construit un modèle de projection de force, être capable de projeter 15 000 hommes à l'extérieur et de les relever en permanence. D'où un besoin d'unités de combat de première ligne de l'ordre de 50 000 hommes, avec leurs appuis aériens, leurs appuis d'artillerie, etc. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de ce modèle-là, parce que finalement, d'abord, les opinions publiques occidentales ne sont plus disposées à accepter ce mode d'engagement, et que d'autre part, ce mode d'engagement a fait la preuve, de manière récurrente à travers le dernier demi-siècle, de ses limites. Autrement dit, dès lors qu'on est engagé dans des sujets, dans des enjeux qui portent sur la démocratisation, qui portent sur l'instauration d'un certain nombre de libertés publiques, et je dirais d'un modèle de société inspiré du modèle occidental. Un grand théoricien américain qui s'appelle Joseph Nye, qui était un des principaux collaborateurs de Bill Clinton, a théorisé cette question en développant le concept de soft power. Le soft power, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de séduction, c'est la capacité de conviction, c'est l'attractivité du modèle que l'on peut développer, qui passe par beaucoup de vecteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Pentagone, par exemple, aux États-Unis, est un financeur important de Hollywood. C'est-à-dire que la production cinématographique américaine est assez largement influencée. Il y a un bureau au Pentagone qui décide des crédits budgétaires attribués à tel ou tel producteur au titre de tel ou tel film, sous telle ou telle condition. Avec parfois des passages, des scènes qui sont retirées parce que c'est ça où il n'y a pas d'argent, tout simplement. Bon. Il faut savoir que depuis maintenant un an, le Pentagone a ouvert une ligne de crédit spécifique dédiée aux interventions dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux où des tas de gens échangent des idées à peu près sur n'importe quoi, eh bien, assez régulièrement, vous avez des intervenants, sous des noms quelconques et variés, qui en réalité interviennent pour le compte du Pentagone pour instiller leurs idées, pour faire basculer telle opinion, etc. Donc, c'est ça, si vous voulez, ce qu'on pourrait résumer comme étant le soft power. Le soft power, c'est quelque part l'alliance entre le Pentagone et Hollywood, Coca-Cola et les sociétés qui gèrent, enfin que ce soit Google ou Twitter ou tout ce qu'on voudra, cet univers précisément de l'information. Et auquel on pourrait ajouter, bien sûr, aussi bien en matière de finances qu'en matière de technologie, de haute technologie, un certain nombre d'intervenants. Alors, comment articuler la construction et l'exercice d'un outil militaire complémentairement, précisément, au soft power ? Hillary Clinton a repris cette problématique en disant « Ce que nous devons construire, ça n'est pas uniquement du soft power, nous devons construire un smart power ». Et le smart power, c'est tout simplement la combinaison de la force, d'une capacité d'intervention et du soft power. Et par rapport au modèle que nous avons construit depuis 15 ans, qui est un modèle de projection de force, tel que je vous le décrivais, et dont on a vu l'exemple en Afghanistan, en Irak ou ailleurs, le modèle qu'il s'agit de construire aujourd'hui, me semble-t-il, c'est un modèle de projection de puissance. Un modèle de projection de puissance, on peut le définir comme étant la capacité d'intervenir et d'interdire l'utilisation de toutes les formes d'espace que ce soit, les espaces aéroterrestres, les espaces aéromaritimes, dimension spatiale supérieure, et les espaces informationnels. Ça, c'est la première composante de la capacité de projection de puissance. La deuxième composante de la capacité de projection de puissance, c'est l'aptitude à exercer des frappes à distance, ciblées, sur des objectifs précis, et de ce point de vue, si les États-Unis ont réussi à stabiliser la situation en Afghanistan, tant qu'ils sont engagés, ça ne me paraît pas être principalement grâce aux patrouilles qui sont effectuées dans le désert, c'est à partir des frappes ciblées qui ont permis d'éliminer, grosso modo, de l'ordre de 2000 chefs talibans identifiés et détruits généralement, enfin supprimés à l'occasion de frappes effectuées par des drones. Bon. Et troisièmement, la projection de puissance, c'est bien sûr la capacité de détruire un outil militaire adverse, quel qu'il soit, à l'occasion d'engagements de haute intensité, mais de brève durée, et qui, dans le système institutionnel occidental moderne, peut difficilement dépasser 3 à 6 mois. Autrement dit, vous voyez que la notion de permanence, la notion d'occupation de terrain, doit être, me semble-t-il, revisitée dans la perspective de l'exercice du soft power, qui est la capacité de séduction et de conviction, mais pas l'occupation militaire prolongée. L'action militaire doit être dédiée au contrôle de ces espaces de toute nature et d'autre part à la destruction d'outils adverses, mais encore une fois dans une perspective d'engagement bref et de haute intensité. Il nous reste à répondre à une série de questions. La première, quid de notre outil militaire, de notre outil nucléaire? La France a investi massivement pendant des années des sommes tout à fait considérables pour encore aujourd'hui détenir un outil de haute capacité technologique, dont on aurait tort d'ailleurs de croire qu'il est acquis pour l'éternité. Je rappelle au passage que le propre d'une tête nucléaire, c'est qu'elle se dégrade assez rapidement dans le temps, et qu'un système de dissuasion nucléaire n'existe que si on le reconstruit en permanence. D'où l'utilisation d'un certain nombre de produits de nos centrales nucléaires à cette fin. De telle sorte que, contrairement à ce que parfois on raconte, il y a un lien assez direct et évident entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Si on veut reconstituer du nucléaire militaire en permanence, il faut bien avoir la capacité à reconstituer des têtes nucléaires qui se dégradent dans le temps. On ne peut pas ranger des têtes nucléaires sur une étagère et revenir 10 ans plus tard en disant « elles sont dans l'état où je les ai rangées ». Non. Voilà. Ceci dit, cet outil existe aujourd'hui. Il faut savoir quel avantage en tirer. Il est clair que l'outil nucléaire est prioritairement un outil politique et pas un outil militaire. C'est ce qui rentre dans la catégorie des systèmes de non-emploi. J'ouvre une petite parenthèse pour souligner le fait que ça n'est pas le seul système d'armes qui rentre dans la catégorie des systèmes de non-emploi. La conscription dans les pays occidentaux depuis une quinzaine d'années est rentrée dans la catégorie des systèmes de non-emploi. Et pour ceux qui en doutaient, en France, lors de la première guerre du Golfe, la décision du chef des armées de retirer tous les appelés de tous les navires qui étaient susceptibles d'approcher à moins de 1000 km du théâtre des opérations, soulignez bien que la conscription était devenue un système de non-emploi. Eh bien, ma thèse, qui est peut-être la thèse la plus audacieuse, la plus critiquée assurément, peut-être la plus critiquable de ce bouquin, c'est que les systèmes de projection de force tels que je les ai décrits vont rejoindre le nucléaire et la conscription dans la catégorie des systèmes de non-emploi. D'où la nécessité de substituer à la projection de force, la projection de puissance, d'une part, telle que je l'ai définie, et l'exercice du soft power. J'en reviens au nucléaire. Puisqu'il s'agit d'une arme principalement politique, eh bien, il s'agit d'en faire une utilisation principalement politique, et je reviendrai dans un bref instant sur cette question. L'autre sujet, me semble-t-il, que nous devons traiter, c'est celui des alliances. En Europe, premièrement, nous n'avons guère aujourd'hui qu'une puissance qui représente un potentiel militaire à peu près comparable au nôtre, c'est le Royaume-Uni. Bon. Avec des problèmes qui sont à peu près les mêmes que nous, peut-être même plus cruciaux dans beaucoup de domaines. Ma thèse, c'est qu'en dépit de l'histoire, en dépit des déceptions constantes, réitérées, permanentes, que nos amis britanniques nous infligent, finalement, c'est encore d'eux qu'en matière stratégique et militaire, nous sommes les moins éloignés, tout simplement parce que l'autre grand partenaire potentiel qui est l'Allemagne, d'abord est très tourné vers l'Europe centrale, vers le centre-Europe, c'est-à-dire vers un territoire qui, pour nous, n'est plus un enjeu de premier rang. Et au fond, se rêve aussi de plus en plus comme une grande Suisse. Bon. Lorsqu'on envisage ce sujet du point de vue de la France, au fond, notre idéal consiste à dire « nous sommes en train de construire un édifice européen qui, selon moi, relèvera davantage de l'Europe des nations et des nations-États que d'une Europe intégrée telle qu'elle a pu être rêvée ou fantasmée à un certain moment. Mais, puisque nous sommes en train de construire cette Europe à partir d'un axe franco-allemand en matière budgétaire et économique, Notre intérêt bien compris, c'est de le compléter par un axe militaire et stratégique franco-britannique, en dépit de tout ce que nous pouvons avoir à reprocher, et encore aujourd'hui, à nos amis anglais. Et de ce point de vue, l'outil nucléaire peut retrouver toute sa signification, parce que l'outil militaire peut être pour nous, en rapprochant notre force de dissuasion de la force de dissuasion britannique, à travers un certain nombre de mécanismes qu'on pourrait envisager, comme non pas un mécanisme par exemple de double clé, mais un mécanisme de clé parallèle, pourrait être un moyen d'avancer politique significative de la construction européenne selon un axe franco-britannique, sous réserve bien sûr que ce dispositif d'intégration accrue de nos forces de dissuasion nationale soit mis précisément au service d'une certaine sanctuarisation européenne à travers une définition un peu plus précise de ce que dans la doctrine de dissuasion il est convenu de qualifier d'intérêts vitaux. La doctrine de dissuasion française consiste bien sûr à sanctuariser le territoire national plus des intérêts vitaux. Et toute la doctrine consiste à ne pas préciser le contenu de ces intérêts vitaux. Peut-être le moment est-il venu de réfléchir à précisément la manière dont on pourrait articuler un peu plus précisément des intérêts vitaux en incluant explicitement la sanctuarisation du territoire européen dans son ensemble, de telle sorte que l'outil franco-britannique mieux intégré puisse devenir un outil, un poids politique, un outil politique pour rééquilibrer finalement la construction européenne un peu à notre profit. Voilà, me semble-t-il, j'aurais pu développer beaucoup d'autres thèmes sur l'importance, par exemple, de nous inspirer, là encore, de l'histoire pour penser notre stratégie d'ensemble. On peut le résumer simplement en disant que la France, à travers des épisodes passionnants, la guerre de 30 ans est probablement un des moments les plus révélateurs de ce qu'est la pensée stratégique, la vision stratégique, je le développe au début de ce bouquin. Nous avons cultivé des pratiques qui étaient l'alliance de revers. Pendant des siècles, toute la politique extérieure de la France a été construite sur l'idée d'alliance de revers, avec des puissances scandinaves, notamment la Suède, avec des puissances slaves, la Pologne, à un moment donné avec la Russie, et puis historiquement, pendant très longtemps, avec la Turquie. Voilà. Je rappelle qu'après la défaite de Pavie, lorsque Charles Quint a menacé gravement d'encerclement le pays, à travers ses possessions en Espagne, bien sûr, en Italie et en Allemagne, de quelle manière François Ier a réagi? Il a noué une alliance offensive et défensive avec Soleimani, et avec la Turquie, et la flotte combinée franco-turque pendant des années a coupé les communications maritimes entre l'Espagne et l'Italie pour empêcher le basculement des armées espagnoles justement vers les théâtres d'affrontement du centre-Europe. Cette flotte combinée d'ailleurs, pour la petite histoire, passait l'hiver chaque année à Toulon, et il paraît qu'à cette époque-là Toulon était une ville couverte de minarets. Et d'ailleurs, ces épisodes-là ont bien failli coûter une excommunication à François Ier, parce que les Turcs avaient coutume de prendre des prisonniers destinés à devenir des esclaves en Espagne et en Italie. Ils passaient l'hiver à Toulon, ensuite les Turcs les ramenaient en Turquie. Et donc le pape a failli excommunier François Ier, parce qu'il laissait partir des chrétiens pour servir d'esclaves aux Turcs chez eux. Donc vous voyez que là aussi, l'histoire peut être une source permanente d'éclairage. Donc le retour à cette pratique, à cette réflexion, à cette vision stratégique fondée sur les alliances de revers, fondée sur les glacis protecteurs, la politique de la France vis-à-vis de la Bavière d'une part, vis-à-vis de la Ligue du Rhin d'autre part. Tous ces éléments-là doivent être des éléments qui réinspirent en quelque sorte notre vision stratégique et notre politique. Parce qu'en définitive, et c'est un peu par là que je voudrais conclure, le point auquel nous sommes arrivés, me semble-t-il, est finalement le syndrome assez grave, me semble-t-il, du déclin de la pensée stratégique en Occident, qui fait que notre réflexion d'ensemble est aujourd'hui concentré sur un nombre de sujets extrêmement limités et de courte vue. Et on peut dire que, d'une manière générale, les deux facteurs qui ont contribué à amoindrir, sinon à tuer, la pensée stratégique en Occident, c'est probablement l'idéologie et la technologie. Et donc, confronté à un monde naissant, dans lequel nous n'avons plus la suprématie, nous n'aurons plus la suprématie technologique absolue que nous avons eue pendant 2 siècles. Confronté à un monde naissant où les poids démographiques vont être totalement bouleversés. Je rappelle qu'au début du XXe siècle, la rive nord de la Méditerranée était 4 fois plus peuplée que la rive sud. D'ici une vingtaine d'années, la rive sud sera plus de 2 fois plus peuplée que la rive nord. Bon. Des facteurs de ce type-là, évidemment, bouleversent notre situation. Ce que je crois, c'est que nous devons impérativement restaurer la culture d'une vision stratégique qui constitue finalement l'ordre naturel des choses et qui devrait nous conduire, sinon avant les élections, puisque visiblement ce débat n'est pas à l'ordre du jour, mais après, à reprendre ce sujet par le bon bout pour faire les choix essentiels qui nous permettent au fond de concentrer les moyens dont nous disposerons encore sur ceux qui constituent les enjeux essentiels pour notre avenir. Mais ceux qui constituent indubitablement un enjeu essentiel pour notre avenir, c'est que la France définisse une posture de défense et qu'elle l'applique. Parce qu'en définitive, adopter une posture de défense, c'est exprimer d'une certaine manière la façon dont on voit le monde et la manière dont on voit son avenir. C'est en définitive un des ressorts essentiels de la cohésion nationale dont beaucoup parlent sans avoir probablement fait entièrement le tour de ce qu'elle implique. Voilà, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et votre intérêt.